Alors, chers amis, nous avons en tout cas le quorum pour continuer. Nous allons après Genève et Karlsruhe aller ailleurs, notamment à Londres, avec Peter van Dungen. Nous allons aussi changer de langue pour un instant, ce qui est tout à fait adéquat pour présenter un fondateur de la Croix-Rouge britannique. Il est adéquat que ce soit en anglais. Monsieur van Dungen, je vous passe immédiatement la parole.
Well, good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here again and to say something about a very important figure in the history of the British Red Cross. Earlier this year, I had the pleasure to say something about Professor Longmore, and I discovered a great deal about this fascinating figure, also a key one in the history of the British Red Cross, and a great friend of Sir John Furley. But knowing more now about Furley than I knew early this year, Furley really should be considered, and is considered, I think, the father of the British Red Cross. But they are two very different figures, very different figures. First of all, I should say that Furley is not a doctor, was not medically qualified. He was really a soldat manqué, somebody who really wanted to be a soldier. And this interest in the army, in the military, in war, is reflected in his many writings. He enjoyed the military spectacle. And I think it would be very interesting to draw a parallel, to make a comparative study between Henri Dunant's Memory of Solferino and Furley's writings about his involvement in the Franco-Prussian War. It would be very interesting and instructive. The Memory of Solferino is very small, one can read it very quickly. Furley's account of his involvement in the Franco-Prussian War consists of two volumes, 500 pages, which he published already in 1872, and 2 years later a French translation was made. So his book was called Struggles and Experiences of a Neutral Volunteer. As I say, 1874, a French translation, 500 pages. The first half about the Franco-Prussian War, the second half about the Commune. What is I think one of the striking differences between these two books is as follows. Memory of Solferino, I think, is very moving. And I think there are very few accounts of war which bring out sort of the misery of war. I think Dunant does this very well. He describes what he has witnessed and so on, I think, in unforgettable terms. When one looks at the accounts by Furley, it is very different. Somehow I have not been moved reading these 500 pages as I have been by reading the 100 pages of Memory of Solferino. And also, what one doesn't find, I think, in Dunant, in Memory of Solferino, is this kind of interest in the military spectacle. And there are many instances in Furley's book where he describes how he relishes observing the fighting. And he looks for a position, and also during the Commune in Paris, which he's describing, observing the events which he sees in the streets of Paris from his vantage point in the Rue de la Paix. He does not comment on this, the irony that he is living in the Rue de la Paix, high up on his balcony, and he oversees the spectacle. And as I say, he seems to enjoy this, and his descriptions of the spectacle, of battle, and so on. As I say, one does not find this in Dunant. So, with respect to the previous presentations, one can say that Roger Durand was saying Appia, hyperactive, The same is true with Furley. Appiah's enjoyment of associating with the nobility and royalty, my goodness, John Furley likewise. So let me say first something about his biography. John Furley was born in 1836 in Ashford, in Kent, in the southeast of England. There was established a kind of regimental unit, which Furley joined as a young man, and he really wanted to enter the military profession, but he was physically not strong enough to do so, and his parents would not let him. So he followed in the footsteps of his father, who was a solicitor, an avocat. So this is what also Furley did. As I say, his heart was not in it, but he had no choice. So, but his interest in the military, he could to some extent satisfy by joining as a young boy this this regiment in Ashford. And for some 14 years he was a member. And here is a picture of Furley during those years when he acted as a in this regiment. And this is very interesting and very important for his later development, because as a member of this regiment, this regiment of volunteers, he came into contact with many military people, with aristocracy, and also with royalty, because there were many shooting competitions. And he apparently became quite an expert rifleman. So he describes in great detail the kind of competitions he was engaged in England and on the continent. He was involved in organizing them. He describes the soirée, the dinners, with great relish. And also he describes every time he meets royalty, and so on and so forth. And those contacts he made in those early days proved to be very useful to him later on, when he became a volunteer in the Franco-Prussian War as a aid worker. Here we see a picture of a painting of him, which was made around 1900, and which hangs in the headquarters of the, I forget now, either the Red Cross headquarters in London or the St. John's Ambulance Association. And you see his medals and so on. You can see in a way that he would have pictured himself as a general, a much decorated general. So as soon as he could, in 1864, he went to Schleswig-Holstein, where he was for several months to observe the war. He wanted to go to the Crimean War already in 1854 as an 18-year-old, and he wrote the Ministry of War, but he did not get permission to do so. So he went on his own accord to the Crimea, but he could not go. He traveled along the Danube River. But then, because of the war situation, he could not proceed further. So, as I say, he was greatly interested in war, seemed to enjoy the military spectacle. So that as regards his background. So, what we see as regards the origins of the British Red Cross, in which he played a prominent role, the Red Cross was founded here in Geneva following the Battle of Solferino and the publication of Dunant's Souvenir. In England, the Red Cross emerged as a result and during the Franco-Prussian War, and also as a result of a publication, but this time the publication was a letter in the Times. Now, in England, many things have their origins in the letter in the Times. Maybe not anymore today. The Times is no longer what it used to be. But certainly until let's say the last decades of the previous century, sometimes letters in the Times could start a movement or could bring down a government and so on. So So a letter in the Times, which was published very soon after the start of the war, in which it was mentioned that it would be good if within Britain a society could be formed in order to assist humanitarian work in the field. So this letter was published on the 22nd of July, 1870, so only 1 week after the declaration of war. And very interesting also, within 2 weeks of the publication of this letter, so on the 4th of August, 1870, a meeting was held in London, where a society for the aid of sick and wounded in war was established. And the British Red Cross dates its origins to this date, 4th of August, 1870, Society for the Aid of Sick and Wounded in War, which became known as the National Aid Society. And only in 1905 did it become the British Red Cross Society. So the speed with which the letter to the Times was published following the outbreak of the war, as well as the fact that the letter bore fruit so soon after its publication, can be explained by the concern of a few individuals in the preceding years that no such society had been established in England. And in this respect, John Furley is a very important figure. So, and this leads us to have a to mention the Order of St. John, which had recently been revived in England. Furley attended the first international conference of the Red Cross, of the Red Cross societies in Paris in 1867, and there he learned of the important role played by the Prussian branch of the same Order of St. John. And when he came back to England, he persuaded his colleagues that they should take the lead in forming a national aid society in England. And 2 years later, in 1869, the Order of St. John established a committee to promote this idea. And in fact, at the second International Conference of the Red Cross held in Berlin in 1869, John Furley, together with Captain Charles Burgess, another member of the Order, went to attend the conference. And here he met for the first time Gustave Mounier and also Appia. And I imagine that it was at this meeting that he decided to bring out a translation of the book which they had written, La Guerre et la Charité, first published in 1867, with an English translation coming out in 1870, just before the start of the Franco-Prussian War. This Franco-Prussian War then presented this St. John's Committee, established in April 1869, with an opportunity to advance their cause. And in order to be able to do so, they looked out for a leader who was respected in both military and government circles. And here, Furley drew attention of his committee members to an eminently suitable figure with whom he was well acquainted, and this was Colonel Robert Lloyd Lindsay, one of the heroes of the Crimean War and one of the first recipients of the Victoria Cross. So the Victoria Cross in Britain sort of was founded to honor heroes of the Crimean War by Queen Victoria. And is always been regarded as the highest military honor. And the recipients of the Victoria Cross in England, now this is more highly appreciated than being a recipient of the Nobel Prize. So Furley knew Lloyd Lindsay from his work, from his participation in the Kent Regiment. So this is how he was able to call on Lloyd Lindsay, who agreed to front this kind of campaign to establish a society to aid the wounded on the field of battle. So Lindsay wrote this letter to the Times, which I mentioned earlier, and call for the formation of such a society. And he wrote in this letter also that he was putting £1,000, which was a great deal of money in those days, into this into the foundation of this society. So this letter was extremely important because it really led to a great support from the British public. In no time, something like a quarter of £1 million was donated, and many people also donated goods in kind. So a quarter of £1 million in today's money would be something like £12 million. So this was, as I say, a very important letter which galvanized British society somehow to indeed see the point of establishing a society to aid the wounded on the field of battle. So Lord Lindsay made it clear in this letter to the Times that this organization was had to be neutral and should provide aid to the wounded soldiers on both sides of the conflict. And he did indicate British relations with both, during the Franco-Prussian War, with both the Germans and the French. As regards to the French, they had been allies in the war in the Crimea. As regards the Germans, there were connections, including royal connections. So this, as I say, this foundation of the British National Aid Society, Fergie later wrote in his memoirs, sprang into existence as if by a magician's wand. He says, in no war, not even in that of the Crimea, where our own navy and army were engaged, was there more sympathy for the sufferers. He said, never had a quarter of £1 million sterling been so easily collected, as was the case here. So the nobility and the respectability of this of the cause was attested to by the fact that Queen Victoria agreed to become a patron of the society, and the presidency of the society was assumed by the Prince of Wales, later King Edward. So during this inaugural meeting on the 4th of August, 1870, Furley was asked to go to Geneva to notify the committee here of the formation of the society. So he did so, and on his journey he also visited Paris and Berlin, and it took him 10 days, and then he came back to London to report on his findings. Already the provisional office, or the office which had been established for the National Aid Society, had moved into new premises because they received so many donations and so on. As I say, this was almost a tsunami of interest and of the donations and so on, so that they had to move into new premises in central London. We know a lot about John Furley, not least because of his own writings. As I mentioned, already in 1872, he wrote two volumes of his experiences during the Franco-Prussian War, translated 2 years later in French. And then in 1905, when he was approaching his 70th year, he wrote an autobiography called Peace and War, fragments or sketches of an autobiography, about 400 pages. And on the whole, he really uses whole chunks of his book of 1872, where he, as I said, to some extent duplicates what he had already written at that earlier time. So we are very well informed about his life, and we have various papers of his, but as far as I can tell, we do not have a modern biography. So when he died in 1919, there were obituaries in various journals, in the British Medical Journal, in the Journal of the St. John's Ambulance Association, and so on. But as far as I can tell, we do not have a full-length biography. And he certainly, I think, deserves one. So let me then jump in a way to the war and then the commune and Feuilly's role in this. Caroline Moorhead, who has written a very extensive history of the Red Cross, says that John Feuilly, when one reads his memoirs and what he did during the Franco-Prussian War, somehow it is breathless. He is running from battle to battle. And I think this is very much the case. Somehow it is, as far as I'm concerned, it is, as I mentioned earlier, it is in a way, in many ways, not pleasant reading. He mentions the name after name and battle after battle without providing any context. He meets many people, hardly identifies who they are. There are no maps, so he takes pleasure in describing battles and so on and so forth. And as I say, he is rushing from one battle scene to another, and somehow, as I say, the impact is not the same as we find in Dunant's account of the aftermath of the Battle of Solferino. But one must say that that Feuilly is he is a very interesting person because, first of all, he was based in Versailles with the Germans and lent assistance to the German side. But he made it very clear that his mission was impartial, and that all the goods and the funds which he received from England had to be equally distributed amongst both the French and the Germans. So during the Commune, he is based in Paris, but he travels back and forth, which was not easy, between Paris and Versailles. And he is being offered accommodation by Countess so-and-so, and as I say, he has all those contacts, and he makes the fullest use of them. What we also find throughout his account, whether it is about the war or about the commune, is somehow he pays attention to dinners and the good life. And he mentions this, and he relishes this, and having a good cigar, and so on. So sometimes a strange kind of mixture of the battlefield and the misery and the poverty and so on, and yet somehow, as I say, this these references to a different life. So what, as I say, well, he is very clever. He does not take no for an answer. He finds ways around obstacles. In that sense, he is, as I say, he is very skillful, he is very determined, and he manages to achieve a lot during the war, during the commune, and then later on when he continues his involvement as a volunteer in other scenes of war. So let me say a little bit about his work during the commune. I do not know whether I'm not a student of the commune, but his day-by-day account of what happens in Paris during the siege and afterwards, as I say, I wonder whether historians of the Commune are referring to it, because he himself says that maybe nobody sort of knew so well as he did what was happening on the ground and across the kind of division. So he is extremely critical of the Commune. The words he uses, he is not—he does not mince his words as regards the communard, the Reds, the communists. But that does not mean to say that he does not extend his voluntary work to also to the communards. So as I say, I'm not sure to what extent this eyewitness account, the day-by-day account, 250 pages. In the French translation, somehow is being used by historians of the Commune, and to what extent it is regarded as trustworthy, which I think it must be. So he was all the time busy inspecting hospitals, bringing materials from the stores. There were various stores, magasins, with equipment and so on, which he then distributed. And supervise the distribution of. I think very quickly I must say something about his involvement later on in the Carlist War in Spain, where he managed to achieve what nobody else achieved, and neither the ambassador nor the British Foreign Secretary, which is the release of an English journalist, again showing his skillfulness in doing this. Later on, he was involved in the Boer War. He also has a reputation as an inventor of a stretcher, which is named after him. This one is a more advanced stretcher, which is called the Ashford Litter, which was his stretcher with wheels and a cover. And as we know, as a result of the increase in the fire on the battlefield, it became more and more difficult to treat wounded soldiers on the battlefield. So the treatment took place away from the battlefield. So the question of transport became very important, the transport of the wounded and the injured. And this is where we see here the stretcher which he sort of invented, and as I say, which is named after him. If you look at the histories of stretchers, somehow Furley is credited with inventing the Furley stretcher, and also with the Ashfield litter, as I say, which was basically a stretcher on wheels and with a cover. And we see a postage stamp which was made to celebrate the work of the St. John's Ambulance Unit. Furley as a very important figure in the history of the Red Cross. Also, one must say that it's a very torturous development because after the Franco-Prussian War, somehow the society which had been established, Furley and others wanted the society to also be active in peacetime. So in peacetime, many accidents in mines and in industrializing society. So, but this is not something Lord Lindsay, who was the chairman of the society, was interested in. So we see here the St. John's Ambulance Association emerging in the 1870s, and then the St. John's Ambulance Brigade. So trained people to provide first aid in the society. And in fact, this is in a way the beginnings of the British National Health Service. So it was only after the Second World War that the British National Health Service was established, but up to that point, the St. John's Ambulance Association and Brigade was the main body involved in this. And one can say that John Furley was the founder of this. So it was only then in 1905 that the British Red Cross was established out of a coming together of various organizations. So, as I say, John Furley is a fascinating figure. He is a great humanitarian, boundless energy. And as I say, when one reads his memoirs of the Franco-Prussian War, he was rushing. And also, as I say, his interest in the military aspects and his love of the cavalry and of horses. And also, when one reads his memoirs, he describes in detail the horses he is using, the coaches he is using, the way he is looking after horses, the health of the horses, the feeding of the horses, providing accommodation for the horses. As I say, one finds this throughout his writings. As I say, he is really a kind of a soldier monkey. And his work in sort of with the Red Cross, as I say, somehow this was as near as he could come to being a soldier, being on the battlefield, but instead of using weapons and so on, as they're using his skills to provide aid to the wounded and the injured. So I think I'd better stop here. Thank you very much.
On découvre aussi une nouvelle personnalité, quelque chose qui est frappant, c'est tous ces pionniers et autres, c'est aussi l'initiative, de ne pas considérer le non comme une réponse définitive, et avec beaucoup de créativité, de persévérance, arriver à quelque chose. C'était amusant, Monsieur Van Doelen, que vous nous dites que, comme pour les Genevois dont on parlait tout à l'heure, une certaine fascination, ou en tout cas un plaisir à être avec la bonne société. Donc, les humanitaires qui cherchent la compagnie des têtes couronnées, et nous savons qu'aujourd'hui c'est un peu l'inverse. on occupera une princesse à quelque activité humanitaire. Il y a donc là aussi un lien. J'avais découvert tout à l'heure qu'être théologien n'était pas du tout paradoxal, mais dans humanitaire. Et on voit ces deux mondes-là qui se côtoient aussi avec ce qu'il y a de précieux comme soutien politique, mais certainement un peu d'ambivalent aussi dans l'action et le faire voir et faire valoir. Mais on reste, un mouvement humanitaire ne peut être que humain. Revenons en Suisse, en tout cas à la frontière, mais pas à Genève cette fois. Avec François Bugnion, que nous connaissons tous dans les travaux sur le CICR, les fondateurs du CICR, mais je n'ai pas encore entendu François ailleurs. Et les Bourbaki, qui arrivent chez nous, qu'a-t-on fait avec eux, qu'a-t-on fait pour eux? François Bugnion, venez, s'il vous plaît.
Merci. L'armée est prête, il ne lui manque pas un bouton de guêtre, avait déclaré le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre de Napoléon III, au moment du vote des crédits militaires le 15 juillet 1870. Il y a des phrases que l'histoire retient mais qu'elle ne pardonne pas. Et celle-ci figure certainement en bonne place dans la liste. En effet, mal entraînés, mal équipés et surtout dramatiquement mal commandés, l'armée française va aller de désastre en désastre. Dès les premiers combats, en fin juillet, début août 1870, l'armée française est contrainte d'évacuer l'Alsace et la Lorraine sous réserve de quelques places fortes qui sont assiégées: Metz, Strasbourg, Sélestat, Neuf-Brisach et Belfort, qui commande le passage entre les Vosges et le Jura. Le 2 septembre 1870, Napoléon III capitule à Sedan avec 39 généraux, 80 000 hommes, précipitant dans sa chute celle du Deuxième Empire. La République, proclamée 2 jours plus tard à Paris, le 4 septembre, hérite d'une situation militaire désastreuse. Et dans les jours qui suivent, Paris est assiégé à partir de mi-septembre. Le gouvernement, enfermé dans la capitale, n'a qu'une action très limitée sur ce qui se passe en province. Et très rapidement, on va voir réapparaître dans la capitale tous les symptômes d'une ville assiégée, y compris les nourritures oxygénales, un pain d'une qualité déplorable. Chez les bouchers, on vend de la viande de cheval, d'âne, de chat, de chien et bientôt de rat. Avec l'arrivée de l'hiver, évidemment, les gens meurent de froid puisque le charbon n'arrive plus, et bientôt la ville est également bombardée. Du gouvernement dit de la défense nationale, l'un des membres les plus éminents, Léon Gambetta, échappe au siège en ballon, rejoint la délégation du gouvernement à Tours et s'efforce d'organiser le sauvetage de la France, la défense de la France et le sauvetage de la capitale. L'obsession est d'arriver à lever de nouvelles troupes en province pour contraindre les Prussiens à lever le siège de la capitale. Mais la situation est désastreuse. Le 27 octobre, le maréchal Bazaine capitule à Metz avec 150 000 hommes, ce qui permet bien sûr aux Prussiens de renforcer le siège. Une armée est constituée à la hâte au sud de la Loire, en partie en récupérant les débris de l'ancienne armée impériale, là où on trouve des officiers formés, est en partie grâce à de nouvelles levées en province, mais bien entendu, on recrute également beaucoup d'hommes qui avaient été réputés inaptes au service précédemment, parce que les autres, eh bien, ils faisaient partie de l'armée impériale et ils ont été emmenés en captivité en Allemagne. Cette armée de la Loire obtiendra certains succès en marchant sur Paris, puisque l'idée est de libérer la capitale. Elle obtiendra certains succès, mais finalement, elle est battue lors de la bataille de Beaune-la-Rolande, fin novembre et le 6 décembre, les Prussiens s'emparent d'Orléans, donc cette manœuvre pour libérer la capitale échoue. Et alors la République va concevoir une autre manœuvre en récupérant la plus grande partie de l'armée de la Loire, rebaptisée armée de l'Est, dont on va confier le commandement à un général qui s'était illustré lors de campagnes précédentes, un général d'origine grecque, le général Bourbac. Et cette armée, forte de 150 000 hommes, mais comme je l'ai dit, levée à la hâte, insuffisamment instruite, parce que les troupes vont être envoyées au front avant qu'on ait eu le temps de les instruire, mal équipées, a pour mission de progresser le long de la Saône et du Doubs, donc parallèlement au Jura, avec pour objectif de libérer Belfort, qui est assiégé par les Prussiens, libérer l'Alsace et par ce biais couper les arrières de l'armée allemande et contraindre la Prusse à lever le siège de Paris. Tout cela est entrepris en plein hiver, un hiver exceptionnellement froid, marqué par une neige profonde qui va ralentir le mouvement de cette armée et bien sûr donner le temps aux Prussiens, aux Allemands, de s'y préparer. L'armée, le 9 janvier, l'armée de l'Est remporte un succès, mais très limité, à Widersexel, en bousculant les Prussiens, mais le général prussien von Werder a eu l'intelligence de comprendre que cette place n'était pas si importante. Il se retire en direction de Belfort, mais installe une ligne défensive sur une petite rivière, la Lisaine, petite rivière qui constitue malgré tout un obstacle important par un hiver glacé, bien sûr, puisque les troupes ne peuvent pas facilement franchir une rivière dont tous les ponts ont été détruits. En plus, il y a une ligne de chemin de fer parallèlement à la rivière qui offre un magnifique talus et de très belles positions défensives dont les Prussiens vont bénéficier. L'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki, va, dans une bataille de 3 jours, tenter de forcer cette ligne de défense sur la Lisaine. Cette bataille est connue sous le nom de bataille d'Héricourt, du nom d'une petite ville qui se trouve là. Et malgré 3 jours de combat, l'armée de l'Est, malgré aussi une très forte supériorité numérique, ne parvient pas à rompre la ligne des Prussiens, mieux entraînés, mieux équipés, et beaucoup mieux qui ont eu le temps de se préparer. Pendant ce temps, bien entendu, l'état-major allemand a compris la menace que représentait cette armée de l'Est, réunit une armée en prélevant sur les troupes qui assiègent la capitale, armée dont l'état-major confie le commandement au général von Manteuffel, et cette armée va traverser la Bourgogne à marche forcée en évitant les villes, et essayer de couper à la fois la ligne de soutien de l'armée de l'Est et bien sûr ses positions de repli. Après ces 3 jours de combat, ayant essuyé de lourdes pertes sur la Lisaine, le général Bourbaki, finalement, le 18 janvier 1871, donne l'ordre de repli, l'idée étant de retourner vers le sud pour se réorganiser. 18 janvier, le jour d'ailleurs symbolique où, dans la galerie des glaces, les princes allemands acclament le roi de Prusse, Guillaume, comme le nouvel empereur d'Allemagne. Donc, l'État allemand, l'Empire allemand, succède à la Prusse ce jour-là. Et la riposte, malheureusement, la riposte allemande est plus rapide que la marche de l'armée française dans une neige profonde, avec des troupes mal équipées, avec des chevaux qui n'ont pas été ferrés pour pouvoir marcher sur des routes verglacées. Et très rapidement, cette armée voit sa ligne de repli coupée. Le malheureux Bourbaki, devant tant de désastres, tente de se suicider, mais il se manquera également à cette occasion. Il sera seulement blessé. Et c'est l'un des commandants, le commandant du 20e corps, le général Justin Clinchamp, qui prendra le commandement de cette armée en déroute. Situation aggravante, le 28 janvier, finalement, constatant l'échec de cette diversion, qui est en quelque sorte la dernière idée de manœuvre de la République accepte l'armistice qui concerne toutes les troupes sauf l'armée de l'Est. Mais dans la transmission de l'information, ce dernier élément n'est pas communiqué. Et donc, l'armée de l'Est est convaincue que les combats ont pris fin, alors que les Prussiens, eux, continuent leur marche, sachant que l'armée de l'Est, le secteur de Belfort, ont été exclus de l'accord d'armistice. Pour les troupes, évidemment, ce dernier coup est totalement désastreux, puisqu'ils comprennent que la guerre est perdue, et déjà les sacrifices demandés aux soldats sont une chose épouvantable, mais encore, tant qu'on a l'espoir de gagner, c'est une chose. À partir du moment où on sait que la guerre est perdue, qui veut être le dernier mort d'une guerre perdue? Donc, ayant fait une ultime tentative pour rompre l'encerclement de l'armée allemande, le général Clinchamp se convainc qu'il n'y a plus qu'un moyen d'éviter la reddition et la captivité en Allemagne, essaie de demander l'internement de son armée en Suisse. Le 31 janvier, il avertit le commandement de l'armée suisse qu'il ne voit pas d'autre solution que celle-là. D'ailleurs, les Suisses avaient déjà anticipé, ils suivaient ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, ils avaient même envoyé un émissaire, et donc on s'était préparé, d'autant plus que pendant les derniers jours de janvier, plusieurs convois de blessés français ont été évacués à travers la Suisse. C'est ainsi qu'à l'aube du 1er février 1871, au col des Verrières, par un froid glacial, le général suisse Herzog, commandant en chef de l'armée, et le général Clinchamp signent la Convention des Verrières, une courte traité en 10 articles, ça tient sur une petite page, qui permet l'internement de l'armée française en Suisse, donc qui permet à cette armée française d'entrer en Suisse, à condition, bien sûr, de déposer les armes. Le spectacle a été décrit, on retrouve les articles de journaux ou le rapport qui a été rédigé par le major Naval à la fin de l'internement, le major suisse, rendant compte de toute cette opération et décrivant les conditions totalement désastreuses dans laquelle cette armée est entrée en Suisse. Pour prendre un exemple parmi d'autres, les souliers étaient de qualité déplorable et toute une partie de ces soldats étaient pieds nus dans la neige, dans le froid, sur le verglas, je vous laisse imaginer. Une toux stridente et continuelle se faisait entendre de la tête à la queue des colonnes, car tous, à peu près sans exception, en étaient affectés et ce mal qui leur déchirait la poitrine contribuait à leur affaissement, écrit le major Naval. L'état-major français avait annoncé 42 000 hommes. Finalement, c'est 87 000 hommes qui obtiendront l'asile en Suisse sur un jour et demi. Donc vous imaginez les problèmes de logistique liés par l'accueil de ces soldats. La moitié environ aux Verrières, 40% à travers la trouée de Valorbe et le reste en empruntant différents chemins à travers les forêts. 11 800 chevaux, dans un état encore pire d'ailleurs que les hommes, 285 canons, plus que 1000 charrettes, voitures, du train, etc. Les officiers, conformément aux traditions, les officiers généraux ont eu le droit de choisir leur lieu d'internement. Les autres ont été répartis par le Conseil fédéral entre les différents cantons, à l'exception du Tessin, au prorata de la population de ces derniers. Donc tous les cantons suisses ont accueilli, sauf le Tessin, un groupe plus ou moins important d'internés, et ils ont été répartis dans 188 localités. Donc ça veut dire que toute la population suisse a été confrontée à cette situation. Maintenant, si on se concentre sur les aspects médicaux, puisque cela correspond au thème de notre séminaire, là aussi, les données sont très impressionnantes. L'armée de l'Est a amené avec elle, dans ses ambulances, 5100 malades, donc qui étaient transportés ou blessés, mais la grande majorité des blessés avaient été laissés dans les hôpitaux de Besançon, à Pontarlier ou dans d'autres localités. Donc il y avait beaucoup plus de malades que de blessés. Mais en vérité, quasiment 18 000 hommes ont dû être hospitalisés, c'est-à-dire un soldat sur cinq ont dû être hospitalisés et tous les lieux d'internement ont été transformés en lazarets parce que, comme l'écrit très bien le major Daval, tous ces hommes souffraient soit de gelures aux pieds, aux mains, soit de pneumonie, soit des deux à la fois, sans parler des autres maladies, des maladies contagieuses. Donc, ils ont été répartis dans les casernes, des écoles, des églises, mais chacun de ces lieux a été transformé en vérité en lazaret. Sur le plan des soins, la responsabilité première était bien sûr celle du médecin-chef de l'armée, du service de santé de l'armée, puisque, je rappelle, la Suisse, tout au début de la guerre, avait décrété la mobilisation partielle pour couvrir les frontières. Et donc, on a remobilisé les troupes sanitaires de façon à disposer de médecins militaires. Les malades ont été disloqués dans les hôpitaux civils, mais curieusement, il a fallu que le service militaire de l'armée mette sous pression toute une partie des hôpitaux civils redoutait d'accueillir ces soldats français porteurs de maladies contagieuses telles que le typhus et la variole. Le médecin-chef a également décrété que les médecins français seraient assignés à soigner les soldats français, alors que par ailleurs la Suisse a séparé les officiers des soldats. Mais plusieurs rapports montrent qu'il y avait une forte réluctance de la part des soldats, des officiers de santé français à s'occuper de leurs propres blessés. C'est une attitude qui a choqué les médecins suisses et dont on trouve les échos à la fois dans la presse et par exemple dans les procès-verbaux du CICR. Ça a été la première grande action de secours de la Croix-Rouge suisse qui a réuni des ressources considérables pour l'accueil de ces internés. Malheureusement, je n'ai pas connaissance d'un rapport d'ensemble sur l'activité de la Croix-Rouge suisse. Seule la section neuchâteloise, qui était en première ligne, a publié un rapport détaillé qui permet de se rendre compte de cette activité. Et puis ça a été une énorme mobilisation de la population, surtout dans les premiers jours, avant que les services officiels ne soient pleinement opérationnels, pour venir au secours de ces malheureux. Et donc il y a abondance de descriptions sur le fait, toutes les bassines de soupe préparées le long des routes, sur le fait que les familles se sont séparées de toutes les réserves qu'elles avaient prévues pour l'hiver, sur le fait qu'à Neuchâtel, il n'était plus possible d'acheter aucune espèce de chemise, chaussettes, etc., parce que les gens avaient fait la tournée des magasins pour se procurer ces effets, pour les distribuer. La Suisse a été très rapide à rapatrier les blessés en prenant appui sur la Convention de Genève et en disant que du moment que la Convention de Genève prévoyait le rapatriement des blessés ennemis capturés, a fortiori, ça donnait le droit à la Suisse de rapatrier les malades ou blessés qui étaient transportables. Mais encore une fois, beaucoup ne l'étaient pas. Et donc la Suisse, c'est intéressant, a pris appui sur la Convention de Genève, qui en tant que telle ne s'appliquait pas aux relations entre la Suisse et les belligérants, pour justifier le fait qu'on rapatrierait sans attendre un accord les malades et blessés rapatriés. Malgré ces soins, 1701 internés sont décédés en Suisse du fait du typhus, de la variole et des pneumonies, très peu du fait de blessures. 1701 est dans plusieurs cimetières suisses. Vous pouvez encore voir d'ailleurs de petits monuments qui célébraient, qui commémorent le séjour de ces internés. Et les secours, je l'ai mentionné, sur le plan du ravitaillement, le ravitaillement de base, les six soldats avaient droit au même repas que les soldats de l'armée fédérale, mais la population les a pourvus en confiture, en vin, en toutes sortes de légumes, toutes sortes de suppléments, et surtout habits qui étaient très très demandés. Également, des secours ont été envoyés de France. Le CICR a créé un bureau ad hoc à Genève pour acheminer, répartir les secours provenant de France. Dès le 2 février, donc dès le lendemain de l'arrivée de l'armée française, le Conseil fédéral a donné instruction au ministre de Suisse à Paris, Kern, de prendre contact aussi bien avec le gouvernement de la Défense nationale qu'avec Bismarck, qui était à Versailles, en vue de demander que la France et l'Allemagne s'entendent pour le rapatriement des internés, que ça représentait pour la Suisse un fardeau beaucoup trop lourd. Mais tandis que la France, bien entendu, donnait son accord à cette opération, Bismarck s'y est opposé en alléguant que la France était incapable de garantir que ses soldats ne reprendraient pas les armes, mais en mentionnant aussi que c'était un moyen pour mettre sous pression le gouvernement français pour l'obliger à accepter les conditions de paix dictées par l'Allemagne et qui impliquaient pour la France, évidemment, le sacrifice énorme de l'abandon de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Finalement, vu la situation militaire totalement désastreuse, les préliminaires de paix sont signés à Versailles le 28 février, accepté par l'Assemblée nationale à Bordeaux le 1er mars, et le 2 mars a lieu à Versailles l'échange des instruments de ratification des préliminaires de paix, permettant aussi, même si les préliminaires ne mentionnent pas les internés en Suisse, mais les préliminaires de paix prévoyaient le rapatriement des plus que 400 000 prisonniers de guerre français qui se trouvaient alors en Allemagne. Donc du moment que l'accord prévoyait le rapatriement des prisonniers de guerre, cela valait aussi pour le rapatriement des internés, qui s'est fait entre le 13 et le 24 mars, à raison d'environ 10 000 personnes par jour, principalement par train, un peu à pied, essentiellement par bateau, à travers le lac Léman. Alors les suites de l'affaire, donc j'ai mentionné l'aspect médical, les suites de l'affaire, eh bien sur le plan qui nous intéresse, qui est celui du développement du droit international humanitaire, sont importantes, puisque lors de la conférence de Bruxelles de 1874, convoquée à l'initiative du tsar Alexandre II pour codifier les lois et coutumes de la guerre, la question est évoquée. Le projet russe ne comportait rien sur le problème de l'internement en pays neutre, mais c'est la Belgique qui avait aussi été confrontée à des problèmes de droit de la neutralité, mais bien sûr pas du tout sur la même échelle, qui soulève la question. Et l'affaire des Bourbaki, évidemment, était présente dans tous les esprits à ce moment-là, et on a débouché sur une série d'articles qui traitent de l'internement en pays neutre, et qui sont à l'évidence inspirés de la Convention des Verrières, signée comme ça sur une table de cuisine le matin ou une table du poste frontière le matin du 1er février 1871 par le général Herzog et le général Clinchamp. La déclaration de Bruxelles n'ayant pas été ratifiée, la question est reprise lors des deux conférences de la paix de La Haye en 1899 et 1907, et on aboutit ainsi aux articles 11 à 15 de la Convention concernant les droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur Terre, qui traite de l'internement des soldats en pays neutre et qui sont à l'évidence inspirés par la Convention des Verrières. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais étrangement, ces articles-là trouveront une application 30 ans plus tard, en juin 1940, lorsque le 45e corps d'armée français, commandé par le général Daille, demandera son internement en Suisse, à quelques kilomètres des Verrières, en plein été bien sûr, mais finalement étant assiégé par les blindés du général Guderian, comme les malheureux Bourbaki l'avaient été par les troupes du général Manteuffel et du général von Werder. Ce corps d'armée du général Daille comprenait 45 000 hommes pour partie des Français et des Marocains et pour partie des Polonais qui s'étaient engagés au service de l'armée française. Les Français ont été rapatriés, les Français et les Nord-Africains ont été rapatriés en janvier 1941 sur la base d'un accord bilatéral conclu entre l'Allemagne et la France de Vichy, alors que les Polonais, eux, ont passé toute la guerre en Suisse et certains y ont fait d'ailleurs leurs études. Je vous remercie.
Un grand merci, François Guignot, pour cet exposé qui se termine comme la plupart de l'ouvrage. Ce qu'on peut apprendre d'une expérience de guerre, comment est-ce qu'on peut le transcrire dans le droit pour limiter au moins quelques effets de la violence guerrière. Nous avons eu un panorama de personnalités et d'événements ce matin. On n'est pas resté à Genève, on est un peu en Europe. On a mentionné brièvement l'Afrique du Sud. Comme attendu, comme promis, vous avez l'occasion, j'apporterai le micro à qui il le faut, sur l'ensemble des exposés, d'apporter une opinion, de demander un complément. Alors, je vous en prie. Je n'aurais même pas besoin de me déplacer moi-même. Monsieur Durand, vous ne vous posez pas une question à vous-même, j'imagine.
Oh, je m'en pose assez tous les jours, je vous remercie. Non, j'aimerais poser une question à François relatif à à l'image que cet accueil des Bourbaki a laissé en Suisse, et notamment, je sais que le temps était compté, tu ne pouvais pas parler de tout, d'une magnifique œuvre d'art qui se trouve à Lucerne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce fameux panorama qui était une manière de populariser l'événement?
Alors bon, ça s'adresse, la question s'adresse pas mal aux Suisses, mais qui ne connaît pas ce panorama qui est à Lucerne. Alors d'abord deux mots sur ce que sont les panoramas. C'est une forme d'art qui a maintenant disparu, elle a été supplantée en vérité par le cinéma. Mais c'est clairement un ancêtre du cinéma. L'idée c'était d'avoir des bâtiments circulaires, des grandes rotondes, dans lesquelles on suspendait une toile peinte qui représentait soit un paysage, soit un événement historique. Le sol était également décoré et on accédait par un souterrain et ensuite un escalier en colimaçon et tout d'un coup on se trouvait au milieu d'un paysage peint comme ça qui devait, ou d'un événement historique. Et il y avait des compagnies commerciales qui possédaient ces toiles, donc qui les faisaient faire par des peintres, et puis qui espéraient faire de l'argent, faire un profit, en faisant circuler ces toiles d'une ville à l'autre. Et les villes importantes avaient chacune un endroit qui s'appelait le panorama, et donc une structure qui permettait de suspendre ces toiles. Vous avez encore à Paris la rotonde des Champs-Élysées, qui, sauf erreur de ma part, a été transformé ensuite en patinoire et ensuite en théâtre. Et alors, c'est intéressant de voir que très peu après l'événement des Verrières, une société de panorama qui exploitait ce type de toile a eu l'idée d'immortaliser cet événement en demandant à un peintre genevois de prendre en main la réalisation d'un panorama des Verrières. Ils sont adressés à Édouard Castres. Pourquoi? Parce que ce Édouard Castres, qui était genevois, était allé à Paris comme Évidemment, au XIXe siècle, si on voulait faire un nom dans la peinture, il fallait aller à Paris. Rester à Genève, c'était se condamner à la médiocrité. Il était donc allé étudier la peinture à Paris. Il avait été entre les mains d'un maître extrêmement traditionnaliste, mais il avait quand même été en contact avec Manet. Et ça se sent quand on regarde son œuvre. Et au moment où survient la guerre, il s'engage comme volontaire au sein de la Croix-Rouge française. Il est affecté à l'armée de la Loire, il participe à toute l'expédition en tant qu'ambulancier, et finalement il se retrouve avec les autres le 1er février aux Verrières. Donc pour lui c'était tout à fait un vécu. Cette peinture, elle est intéressante à plusieurs titres. Il y a des aspects d'histoire de l'art sur lesquels je ne m'étends pas, mais il y a un aspect qui nous intéresse, nous. C'est que toute la peinture militaire, pratiquement sans exception, est une glorification. Pourquoi ? C'est évidemment les chefs, les généraux victorieux qui veulent immortaliser leur succès. Donc on vous représente les victoires, etc., etc., et on passe complètement sous silence le reste. Alors que le panorama des Verrières, eh bien, c'est l'image d'une armée battue, c'est la souffrance, même les couleurs, le froid, la neige, tout ça est représenté. Donc dans ce sens-là, c'est véritablement novateur. Malheureusement, quand cet art a été supplanté par le cinéma, la quasi-totalité des panoramas ont été détruits, on n'y retrouve pas. Il y en a encore un ou deux, sauf erreur de ma part, mais Luc me corrigera, il y en a un à Waterloo. Il y en a un à Moscou qui est très connu, la bataille de Borodino, mais je n'ai jamais réussi à le voir. Quand j'étais à Moscou, c'était toujours en préparation. Mais la grande différence, c'est que le panorama de Waterloo, il a été fait à la fin du 19e siècle. Donc, 80 ans après l'événement, alors que le panorama des Verrières, il a été peint par des gens qui ont été des témoins. Question, maintenant que la glace est brisée.
Yes, I think the Bukaki panorama is very impressive. I'd just like to say it is not only the case that we have these panoramas concerning battles. For instance, in The Hague is also a beautiful panorama about the coast, Scheveningen, which is one of the attractions in the city of The Hague. As regards, I understand that there are many panoramas in China. I'm not sure historical or rather modern. It seems that China is kind of the world leader in terms of these panoramas. As regards Bukaki, I just have a question, which is it the case, which I seem to remember, that after the internment was over, that invoices, bills were sent to France for the reimbursement of the expenses made by the various cantons to host the soldiers who were interned. Was that the case? And did France pay? Thank you.
Merci. Oui, la Convention des Verrières prévoyait le remboursement des frais liés à l'internement. Donc la Suisse mettait en quelque sorte son territoire à disposition. Elle permettait aussi à ces gens d'éviter la captivité en Allemagne, mais la France, à travers la signature du général Clinchamp, s'était engagé à rembourser les frais de l'internement, et la Suisse s'était engagée à restituer l'armement au moment du remboursement. Donc, effectivement, la France a remboursé en plusieurs tranches, et la Suisse a restitué le matériel au fur et à mesure des remboursements. Les comptes ont été arrêtés à 12 millions, et non pas 12 milliards, comme dit stupidement Wikipédia. Je dis stupidement parce que ça représentait plus que l'indemnité de guerre due à l'Allemagne, qui elle était de 5 milliards, donc c'est évidemment absurde.
Merci beaucoup. Mon privilège de poser une question à Mme Lathion. J'ai été frappé dans l'épopée de Ferrières, disons, une neutralité fragile. Vous avez commencé à nous dire qu'il était plutôt pro-allemand déçu des Français. Mais un peu plus tard, il revendique son statut de neutre, suisse donc neutre. On sait qu'aujourd'hui, Suisse et Suissière, ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a, on le sait, une inspiration de l'un par l'autre. Ce n'était pas incompatible, ça fait partie des mots d'enfance de
de l'humanitaire à travers cette personnalité, ou bien est-ce que il était impartial?
C'est clair que lorsqu'il se dit neutre, suisse neutre, c'est lorsque sa situation est très critique, lors de son internement, lorsqu'il a peur. De même, son père avait commencé des démarches auprès du conseil d'État, je ne vois, à propos de cette expulsion, parce que la famille Ferrière a vraiment d'abord pensé que c'était une expulsion. Donc, ben, ceci scandaleux. Après, ils ont compris qu'en fait, ça pouvait être considéré comme une mesure de protection. Mais Frédéric Ferrière est en partisan allemand, il le dit, pendant tout son possible, sous son cœur et du côté allemand. Donc il y a vraiment une ambivalence entre en parti pris le rappel justement de la neutralité de la Suisse. Ensuite, il est un peu fâché, à un certain moment donné, il est un peu fâché avec les Allemands lorsqu'il y a justement des... où la presse allemande a mal parlé des Suisses. Alors là, il y a le côté suisse, le patriote suisse qui réapparaît. Mais sinon, il y a quand même en parti pris pour Allemands.
Merci.
Oui, j'étais très intéressée par tous ces exposés et je remercie les orateurs. J'ai une question pour M. Bugnon. Si j'ai bien compris, la République accepte l'armistice qui concerne toutes les troupes sauf l'armée de l'Est, et l'armée de l'Est n'était pas informée qu'elle était exclue de l'armistice. Alors, je trouve ça vraiment surprenant.
Oui, surprenant ça l'est en tout cas, mais l'accord d'armistice excluait à la fois la forteresse de Belfort et la Franche-Comté, donc toute la région où l'armée de l'Est se trouvait. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne suis pas en mesure de dire quelle partie a insisté pour que ces troupes soient exclues de l'accord. Est-ce que c'est l'Allemagne qui voulait contraindre ses troupes jusqu'à la capitulation et poursuivre le combat? C'est le plus probable. Et c'est la République qui se disait qu'il y avait encore quelque chose à sauver de ce côté-là, j'en doute. Mais en tout cas, c'était exclu. La difficulté vient de ce que le négociateur, c'est Favre, Jules Favre, négocie en lui ayant un sauf-conduit qui lui permet de passer de Paris à Versailles, négocie à Versailles, revient à Paris et ensuite passe l'information en province à travers les moyens de communication de l'époque qui n'était pas le téléphone. Je crois qu'il n'y a pas de doute que ce membre-là d'information n'a pas été transmis. Ce n'est pas le seul cas. À mon avis, il y a eu une panne de communication tout à fait semblable, ou peut-être encore beaucoup plus grave, lors de l'armistice de juin 40. Mais là aussi, il faudrait des spécialistes de l'histoire de France, il y en a dans cette salle. Mais si mon souvenir est bon, au moment où le maréchal Pétain annonce la demande d'armistice, l'armistice n'est pas signé. Il l'annonce le 17 juin, l'armistice n'est pas signé. Et bien sûr, les troupes informées qu'il y a une demande d'armistice, ils se disent la guerre est terminée. Alors que dans l'esprit de l'armée allemande, c'était évident que jusqu'à la signature, l'accord, il n'y avait pas de suspension des armes. Et je crois qu'il y a eu le même type d'effet pervers en juin 40.
Que François Mignon passe le micro à retour à M. Bugnon.
Alors j'aimerais poser une question à notre ami Peter van den Lungen, pour le remercier de cette présentation d'une personnalité qu'on connaît mal. Est-ce que dans ces innombrables pages de souvenirs, dans toutes ces cavalcades et autres déplacements, Furley parle soit de la Croix-Rouge française, soit de la Croix-Rouge allemande, soit même des jeunes voix? Est-ce qu'il a un regard sur, on pourrait dire, ses collègues?
He certainly does mention the French Red Cross, And in fact, he becomes a member of it. You know, during the days of the Commune, they took over the French Red Cross. It meant that, in a way, the French Red Cross in Paris, most people left, and they established a kind of a new society in Versailles. And when this happened, five members, of which Furly was one of them. So this is very interesting. So he certainly had those contacts, and as I say, he became an official member, in a way, of the French Red Cross Society. I have been wondering also whether there were any contacts with Dunant, because we know Dunant was active, and certainly in his voluminous writings of 1872 and later in his autobiography in 1905, there is no mention of Henri Dunant. And I imagine he, I'm not sure, but he did meet Dunant, maybe at one of the earliest conferences of the Red Cross. Later on, Furly was at Red Cross conferences, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th. I think during the three last ones, he was one of the vice presidents. I'm not sure what it means, how many vice presidents there were. But as I say, he was very much involved. And all this time, in a kind of personal capacity, and representing the St. John's Ambulance Association, not this National Aid Society, sort of this the relations between that society and Geneva, as I say, are very strange. So, but as I say, certainly as regards as regards the French Red Cross, he was involved, very much involved. And also there was an organization which was established in Paris, of which there was a branch in Britain, in which he was very much involved. And this was, I forget the precise name, but this was to aid farmers with providing seeds, because their lands had been destroyed, and because of the battles, somehow land which had been seeded was useless, and this had to be redone. And he expresses often his sympathy for the hard-working peasants. So this became a very important organization in which he became very active. And in his memoirs, he refers to how the peasants. So there were stores, magasins established in France with seeds and farmers' materials they needed. So he describes often how farmers came with their carts and horses to collect materials, and this was an important part of the work he was engaged in. So, when one looks at his overall activity during the Franco-Prussian War and during the Commune, it is extensive, and it touches on various areas, and I think it is most interesting. So I'd just like to mention one thing referring to the what Monsieur Bugnon mentioned about the Hall of Mirrors at Versailles when the German Empire was founded. Furly got an invitation to come and be there, and that shows in a way his connections, because he was attached during the Franco-Prussian War initially to Prince Frederick, who would later become German Emperor, only for 99 days, when he died prematurely. So he had those connections, but he said, this will spoil my relations with the French. So he found an excuse not to be present on that day in order not to, as I say, spoil his position of neutrality. And this is something, his memoirs are entitled Struggles and Experiences of a Neutral Volunteer. And I think it is very interesting, and maybe this is new, because he says in the Convention of Geneva, there is no provision for volunteers from neutral countries. So he said, I have no protection, because this is not in the Convention. So he was very careful to safeguard his neutrality. And this, again and again, sort of he insists on this. At one point, also, Prince Frederick wanted to provide him with a military escort when Furley went to provide aid on the battlefield, and he refused this because he referred to Article 5, I think, of the Convention, which says that the condition of neutrality becomes void when the aid providers are associated with the military. So as I say, one finds in his memoirs many references to his insistence on neutrality. And this also refers to his rejection at a certain point of the badge, because he found many evidences, many instances of the abuse of the Red Cross symbol. And he says about that he met at least one mayor in France who was freely handing out Red Cross badges to butchers and bakeries, which was not in accordance with the convention. So as I say, this is an interesting theme in his writings, somehow this insistence of neutrality, and his own realization that in a way his position was an anomalous one, because he came from a third country, and yet somehow there was no provision in the convention for some kind of official recognition of a neutral volunteer.
Merci beaucoup.
Merci. Je pose une question à Roger Durand. Vous parlez des fortes personnalités de Dr Appiah et Gustave Monnier. Et pardonne-moi pour mon français. Et est-ce que ces conflits, ces contestations entre ces deux fondateurs était seulement à cause de leur personnalité, ou est-ce qu'il y avait des différences idéologiques en bas, peut-être au sujet de religion ou de la mission de la Croix-Rouge, hein?
Je vous remercie de cette question très, très stimulante. Effectivement, on a une historiographie du CICR. Et, enfin, je le dis de l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est une historiographie de la paix, de la concorde, de l'harmonie, etc. Donc on ne parle pas des divergences. Et j'étais surpris de voir que dans les archives du CICR, très bien classées, très bien répertoriées, se trouvent des documents qui montrent manifestement qu'il y a eu des oppositions très fortes entre ces hommes, que ce soit Moigné Monnoir, que ce soit Monnoir du Nord, que ce soit Appiah Moigné. On voit très bien, on a des lettres, on a des documents où véritablement ils divergent d'opinion. Alors la grande question que vous posez, qui est tout à fait fondée, c'est est-ce que ce sont simplement des antagonismes de personnes, est-ce que ce sont des moments de fatigue, est-ce que c'est des véritables divergences d'opinion. Je crois devoir répondre que c'est un petit peu de tout. Pour moi, la première explication, c'est que les fondateurs sont tous des très fortes personnalités. Et c'est pas par hasard. Alors, nous, maintenant, avec le regard de l'histoire, on pourrait dire, ils sont lissés, ils sont polissés, ils sont bien harmonisés. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'expression de guerrier de l'humanitaire. Alors, c'est peut-être un tout petit peu fort, mais je crois bien qu'il y a de ça. J'ai trouvé aux archives d'État une lettre de Théodore Monnoir au ministre de la Police à Genève, mais c'est du Stauffer multiplié par 10. Stauffer chez nous, un tribun populaire extrêmement violent et pas toujours agréable. Je ne me prononce pas sur la justesse de ses idées, mais en tout cas sur sa manière de fonctionner. Cette lettre de Théodore Monnoir est incroyablement violente et dure. Or, on a l'impression d'un gentil docteur, etc. etc. Donc, il y a déjà le fait que ces 5 hommes sont les très fortes personnalités. Le général Dufour est au sommet de tout ce qu'un jeune voix pouvait espérer comme gloire et comme réussite. Il est polyvalent, il est excellent partout. Entre la science, l'enseignement, les ponts suspendus, la guerre, l'humanitaire, la géographie, c'est incroyable ce que réussit le général Dufour. Donc c'est vraiment le sage, et donc son rôle de modérateur parmi les quatre autres personnalités, on l'a pas beaucoup étudié, mais je pense que ce sera une des clés de son rôle décisif. Alors, il y a donc certainement des fonctionnements différents entre eux. Dunant est un... Bon, il est très religieux, il est très exalté, mais on pourrait dire qu'il entre en religion humanitaire. Dunant n'était pas du tout un humanitaire, c'était un religieux et c'était un homme d'affaires. Il n'appartenait même pas à la société d'utilité publique. Donc, tout à coup, il pénètre dans un autre monde. Et alors, il y va avec sa fougue, etc. Et naturellement, qu'il ne peut que heurter les autres. Surtout que Dunant a aussi une différence de fonctionnement. Autant Moynier est un homme organisé avec une cible précise, et puis on vise que cette cible, et puis on regarde ni à gauche ni à droite, autant Dunant part dans toutes les directions. Dès la première séance, il propose qu'on s'occupe des prisonniers de guerre, il amène des allusions par rapport à une action au profit de la population civile. Dunant vraiment est à ce niveau-là, on peut dire éclaté, autant que Moynier est concentré. Pour Appia, alors c'est l'état de mes recherches actuellement, j'ai l'impression que lui n'a pas compris ce que c'était que la neutralité. Et que pour lui, c'est l'action qui compte en fonction de ses idéaux. Et il a manifestement un idéal religieux et un idéal humanitaire, plus encore un idéal médical. Parce que pour Appia, il y a aussi le souci de faire progresser la science médicale. C'est sa vie, je dirais, c'est sa jouissance que de faire une opération, de sauver quelqu'un, de faire un diagnostic, etc. Donc on a à la fois des enjeux immenses, parce que ça, c'est aussi un point qu'on ne souligne pas assez. Très vite, ces cinq hommes se rendent compte qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. Ils sont tous un tout petit peu, je ne peux pas dire allumés, mais inspirés. C'est-à-dire que tous, ils croient qu'ils ont reçu des dons de Dieu, qu'ils en sont redevables vis-à-vis de l'humanité, c'est du calvinisme pur. Alors, on le sait pour Moynier en tout cas. Moynier, il cherchait un créneau pour devenir célèbre et excellent. Pendant 10 ans, il essaye la banque, l'assurance, l'église, toute une série d'activités, la charité publique, pour devenir un grand homme. Et puis, il n'y arrive pas. Puis tout à coup, Dunant lui donne une idée. Il fonce là-dedans, mais il veut réussir. Il y a une ambition chez lui, mais pour Dunant, pour Appia, c'est la même chose. C'est des hommes, ils veulent réaliser un grand dessin. Et ça explique aussi pourquoi, dès le début, persuadés qu'ils écrivent l'histoire, ils arrivent à s'entendre sur quelques points communs, puis très vite, dès que l'histoire est écrite, bien chacun va vouloir écrire son histoire à lui. C'est une interprétation qu'il faudra prouver, etc. Mais donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a manifestement à la fois des éléments du contexte, il y a des éléments des personnalités et il y a des éléments des idéaux respectifs de ces hommes. Mais peut-être que Luc, tu veux compléter?
Non, merci beaucoup, monsieur Durand. Juste en face de vous, on a demandé la parole.
Merci. I would like to make a question to Peter. I coincide plainly with his views about the interests of Farley's thoughts about neutralization. He's very concerned about this issue, and also about his weak position, because being neutral, belonging to a third country. However, at least from the case of the Carlist Civil War, I have the impression that he felt strong in contrast because of probably because of diplomatic political reasons. He was his immunity. He assumed that, or they were rather sure that their immunity should be preserved by the belligerents. I guess that even when in the convention this situation was not legally contemplated, in reality, in these early years, it was very common, and there were many civil volunteers from different countries, and even taking factional positions to some extent. At least, I will show in this afternoon this for the Carlis work, were involved in the as voluntaries, and they feel rather convinced that they will respect it, and they can even do things that the people belonging to one side or to the other couldn't afford in terms of mediation. And I don't know whether you think.
Yes, I think that is something which I think I would like to confirm from based on his own experience. I think for Furley there was maybe an additional element which is, I think, his supreme confidence that somehow he could do this and he could take risks or he would be protected and so on. And this all goes back, I think, to his early days when sort of he was a volunteer and he was involved in those shooting competitions and he met royalty, you know, the Belgian king and the Italian king and so on and so forth. I say he was very well connected. And I think that must have given him the confidence that somehow, you know, there was an extra element kind of protection because of who he was and who he knew. And when, during the Franco-Prussian War and during the Commune, he was almost daily in contact with the British ambassador. And he invited the British ambassador somehow to his vantage point in his apartment in the Rue de la Paix. And at one point, you know, they were too close to the fire. And the ambassador said, I think I'd rather have to go back to the embassy because if I would be injured or if I would die, this would lead to a diplomatic incident. So as I say, I think in terms of Furley's own position, as I said, the context which he had and which he made full use of were at the highest level. And somehow I think this gave him, I think, an extra element of confidence. He never lacked confidence. And there is some correspondence with Florence Nightingale. And Nightingale sort of refers to him as being rather impertinent and so on. And one can see why, you know, she would say this. As I say, I think he was a strong personality and I think he really managed to achieve a great many things.
Okay, merci beaucoup. Je vous parle. Comme... Oui, monsieur. Donc...
Roger, si vous me permettez, vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a frappé. Si j'ai bien compris, vous avez dit Appia n'a pas compris la neutralité. Donc, est-ce que ça veut dire que, disons, on a des preuves qu'il a, sur ce thème, beaucoup participé aux discussions au sein du comité, ou de la conférence même, et qu'il a finalement, entre parenthèses, perdu, disons, la discussion, son point de vue, ou est-ce que je l'interprète pas comme...
Monsieur Durand, pour votre dernière intervention ce matin.
Je serai assez rapide, mais enfin, c'est difficile. La neutralité, tant du service sanitaire que des secoureurs volontaires, c'est la pierre d'angle de toute l'institution Croix-Rouge. C'est ce qui a permis à la Convention de Genève d'être signée, etc. C'est vraiment, je pense, le point capital. C'est celui, d'ailleurs, qui plaisait le plus aux militaires, donc au gouvernement. Alors, nous n'avons pas de texte d'Appia qui critique ou qui dénonce ou qui met en cause le concept même de neutralité. Mais tout son comportement m'amène à penser qu'il agit non pas pour servir la cause par la neutralité, comme par exemple Furley, mais que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être efficace. Mais d'être efficace à court terme. quand il y a cette expédition de Garibaldi à la Bezzecca, il y va et il ne s'occupe que des troupes italiennes. Quand la guerre éclate entre la France et l'Allemagne, il fait partie de ces partisans ouverts, très clairement pour l'Allemagne, et il part directement du côté allemand, il ne se pose aucune question. Et ensuite, le comité apprend qu'il rend visite à l'état-major allemand, mais il n'a aucun souci que le CICR soit aussi représenté auprès des autorités militaires françaises. Il ne se rend même pas compte, j'ai l'impression, à quel point il compromet un des principes fondamentaux de l'institution. Et c'est pour ça que je reste étonné de la mansuétude du comité vis-à-vis de ce membre qui était véritablement un électron libre, quasiment quelqu'un de dangereux pour la neutralité du CICR. C'est tout à fait stupéfiant. Je me réjouis maintenant de trouver dans la presse les lettres qu'il a écrites et dont le CICR s'offusque. Je n'ai pas encore pu les lire, mais manifestement... j'ai découvert cet élément-là. Maintenant, il faudra le confirmer. Mais véritablement, j'ai l'impression qu'il vit le principe même de la neutralisation comme de façon complètement différente, et même quasiment secondaire.
Merci beaucoup, Monsieur Durand. Je crois qu'on voit que après la naissance, il y a la croissance et elle se fait un peu à tâtons avec des expériences. Je me rappelle, j'étais tout jeune délégué d'un membre du CICR qui disait, on ne peut en aucun cas aider les terroristes. Et il avait une position, l'un ou l'autre dans cette salle de qui je parle. Ce n'était pas du tout la politique du CICR. On n'est pas terroriste, bien sûr, mais l'action humanitaire n'a pas des frontières politiques. Elle s'étend le plus largement possible. C'est ce qu'on a pu voir ce matin avec quelques personnalités, quelques exemples. À l'image de ce colloque ou du précédent, on peut se poser la question sur qui sont les premiers, qui sont les meilleurs, c'est qui. Il y a les prédécesseurs. Donc, si on n'est pas premier, on est au moins prédécesseur. Et on pourrait dire, à défaut d'être le premier, soyons au moins le meilleur. Je crois que c'est la perspective qu'on doit avoir dans l'action humanitaire. Ce que je préfère conserver dans le passé comme aujourd'hui, c'est l'universalité de la souffrance et l'obligation de l'universalité et de la complémentarité des acteurs humanitaires dans le monde d'aujourd'hui. Ce que ce colloque rappelle, cet après-midi, nous allons voyager un petit peu vers le sud d'Espagne et puis on remontera en Belgique pour la suite de vos travaux. J'ai compris qu'on peut rester ici comme nous nourrit. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas encore fait, de prendre le livre. Monsieur Durand, vous n'aurez pas besoin d'intervenir sur ce point. Et vous recommencez à 14h.